Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission intitulée « Nos mémoires ». Et « Nos mémoires » aujourd'hui va être consacrée au lien de la justice et de l'histoire avec Stéphanie de Saint-Marc. Stéphanie de Saint-Marc, bonjour.
Bonjour Christophe Diques.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si je vous ai invité, Stéphanie, c'est parce que vous êtes l'auteur d'une somme remarquable, « Les grands procès du XXe siècle ». Alors, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire que vous avez écrit de bout en bout, c'est un livre, une anthologie en quelque sorte de textes, de plaidoiries avec 13 procès qui jalonnent le XXe siècle. Ce livre est sorti dans la fameuse collection Bouquin, donc qui a l'habitude de sortir des anthologies de textes, collection Bouquin des éditions Robert Laffont. Donc 13 grands procès du XXe siècle, Stéphanie de Saint-Marc, et ma première affirmation et non pas question, c'est: ce que j'ai appris en lisant cet ouvrage, c'est de voir ô combien la justice est le reflet d'une époque et de notre histoire. On se représente la justice finalement comme quelque chose d'impartial, c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais au fond, la justice reste fortement dépendante de l'époque dans laquelle elle est rendue.
Merci de votre invitation et merci de cette affirmation-question. Effectivement, ce que je pouvais pressentir avant de travailler sur ce livre, c'est confirmé. Et ce que vous dites, effectivement, que la justice est idéalement impartiale, mais en réalité est le jouet des événements, enfin en tout cas, est en tout état de cause, influencé par les circonstances, par les événements, par l'air du temps, mais dans les moments les plus critiques, elle est véritablement le jouet des événements, ou en tout cas elle peut l'être. Et c'est ce que montre par exemple un procès, enfin, de manière la plus, je dirais, éclatante, un procès comme le procès Laval.
Mais vous êtes là pour vous exprimer. Voilà. Alors, vous commencez d'ailleurs par une citation d'André Gide.
Oui, j'aime
donc
beaucoup.
L'ensemble de textes, vous présentez les 13 procès, donc vous introduisez les 13 procès en donnant le contexte, en racontant un peu l'histoire.
Et c'est vrai, cette introduction, je dirais que j'y tiens parce que c'est un texte dans lequel je cherche à expliquer ma démarche. C'est-à-dire que vous avez raison, c'est une anthologie, c'est-à-dire que c'est un choix. J'ai choisi ces procès, on aurait pu en choisir d'autres. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est, si vous voulez, le projet d'origine, c'était un choix de procès. Et je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était à travers les procès que j'avais choisis, de raconter le XXe siècle. Donc c'est ça, si vous voulez, je dirais, l'objet du livre, mais qui m'est apparu en cours de route. Je me suis rendu compte que parler des procès d'une époque, c'était... Ça pouvait être, en tout cas, raconter cette époque.
C'est-à-dire que votre démarche au départ était une démarche quasi juridique et finalement, elle s'est transformée en démarche d'historienne ?
On pourrait dire ça, même si c'est pas tout à fait comme ça
que vous définissez.
Voilà. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'était simplement un travail sur des grands procès. Et je me suis rendu compte que c'était intéressant d'abord d'établir des liens entre eux et de faire en sorte que ces procès révèlent quelque chose de leur temps, donc effectivement dans une perspective historique.
Alors, parce que je ne vous ai pas présenté, mais vous avez une formation juridique, vous êtes maître de conférence à Assas et vous êtes directrice de l'IRPI, qui est l'Institut de Recherche de la Propriété Intellectuelle. Donc, démarche juridique qui se transforme en démarche historique finalement, mais qui, j'allais dire, au regard de l'historien, n'est pas une hérésie, parce que vous avez travaillé sur le texte et vous avez pleinement retraduit, j'allais dire, l'ambiance d'un texte, l'ambiance d'une époque, en essayant d'y apporter, non pas un point final, mais au moins une conclusion sur l'époque.
Oui, alors vraiment pas un point final, peut-être même pas une conclusion, mais disons un éclairage. Effectivement, ce travail sur le texte a été pour moi fondamental. Il l'est, je crois, pour l'historien comme pour le juriste d'ailleurs. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant, enfin le projet du livre, pour encore parler de ce qu'était ce projet, c'était de partir à la recherche des minutes du procès, même très précisément des sténographies du procès, puisque tous les procès qui ont été choisis ici ont fait l'objet de sténographies. Donc, on a, à travers ces sources, les paroles elles-mêmes qui ont été prononcées par les protagonistes au cours du procès. Et ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique, puisque c'est comme si, avec un peu d'imagination, on arrive à se remettre dans
l'ambiance de l'époque.
Voilà, exactement.
C'est une chose à laquelle on accède facilement.
Ce sont des sténographies qui... pour la plupart d'entre elles, sont issues d'un fonds, tout simplement du fonds du cabinet de sténographie qui se chargeait de ces sténographies, qui se trouve aux Archives nationales. Donc, le plus difficile, c'est pas tant d'y accéder, c'est aussi de faire le tri dans cette masse parfois importante. Avec le procès Stavisky qui s'est déroulé sur des semaines et des semaines, c'est effectivement, on est face à une matière très ample. Quoi.
Mais vous n'avez pas de... Par exemple, vous avez pu retraduire tout le procès Laval, il n'y a pas du tout de... on ne bloque pas l'accès aux archives.
Non. Le procès Laval... D'ailleurs, le procès Laval a été publié. Hein.
Alors, vous commencez...
Mais le procès, pardon, je vous interromps, parce que c'était... le procès Pierre Mendès France était inédit, en tout cas de manière aussi in extenso. Ça, c'est intéressant. C'est une source qui n'existait pas, qui n'avait pas été publié jusqu'à présent.
Alors, vous commencez avec le procès d'Henriette Caillot, qui a tué Gaston Calmette, qui était le patron du Figaro. Et vous terminez avec le procès des Barricades. Là aussi, lien entre le droit et l'histoire. Vos 13 procès, à peut-être 3 exceptions près, sont liés à des faits historiques bien particuliers.
Oui, absolument.
Donc les guerres.
Absolument, oui, oui. Pour beaucoup des guerres. Nous sommes dans une période, je dirais, de conflit. Et voilà, vous me demandiez... Donc il y a Première Guerre mondiale, c'est une sorte de triptyque. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie. C'est une période qui m'est extrêmement riche, me paraissait constituer un tout, enfin en tout cas un ensemble, qui comme tel pouvait, dont la Première Guerre mondiale et la guerre d'Algérie pouvaient servir de borne. Donc effectivement, bien sûr, dans cette période, les guerres sont des éléments pivots autour
Il
y a des passions et donc des procès qui me paraissent particulièrement révélateurs. Mais j'ai aussi choisi de sélectionner des procès qui soient non politiques en me disant que c'était une autre manière, un autre biais de révéler quelque chose de l'époque, et en particulier pour la période de l'entre-deux-guerres, dans les années 30, avec notamment le procès Violette Nozière et le procès des sœurs Papin, ces grandes criminelles.
Alors précisément, c'est ce qu'on découvre à la lecture de ces 3 autres procès. Notre époque n'a pas l'apanage de l'horreur.
Non.
C'est absolument épouvantable ce que vous décrivez. On peut s'arrêter. Donc il y a particulièrement 3 procès. Il y a Violette Nozière qui a tué ses parents.
Son père. Enfin, qui a tenté de tuer ses deux parents et qui n'est parvenu à
exactement. Il y a les sœurs Papin, donc on va en reparler après, et il y a le docteur Petiot. Le docteur Petiot qui agit en pleine guerre. À un moment, il y a de la fumée près du... c'est près de,
près comment,
de l'avenue de la Grande Armée.
Voilà,
le docteur Petiot y vit. Il y a une fumée qui sort d'un des appartements et on s'aperçoit que ce docteur Petiot découpe des gens, les met au feu et des juifs pour la plupart, je crois.
Pour la plupart, oui. Il prétend vouloir leur faire passer, traverser la frontière, en réalité, tout en, évidemment, contre... enfin, espèce sonnante et trébuchante. Et il les supprime, et en réalité, dans des circonstances absolument épouvantables, et d'ailleurs assez mystérieuses. C'est-à-dire qu'on n'a pas complètement élucidé l'affaire Petiot, mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il qu'il brûle dans des fours de son hôtel particulier où il n'est simplement médecin, il brûle ses corps, et effectivement, le voisinage est alerté par des odeurs, des fumées absolument nauséabondes qui envahissent les alentours.
Alors, on reconnaît qu'une vingtaine de meurtres, mais finalement, il dit qu'il en a qu'il a tué plus de 60 personnes.
Voilà.
Cette couverture, hein, c'est le docteur Petiot qui est en couverture de votre ouvrage, donc Les grands procès du XXe siècle paru chez Bouquin, et c'est une image fascinante parce qu'on reconnaît là un fils de la Troisième République, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de photos de ces hommes de la Troisième République qui ont une forme d'assurance, puisque la Troisième République est intimement liée au monde du droit, tous les hommes politiques sont des juristes, et il y a ce personnage qui ressemble à tout, sauf, enfin moi quand je l'ai vu pour la première fois, je croyais que c'était tout simplement un avocat ou voire un président, mais absolument pas un accusé. Or lui, et bien visiblement, ça ne le gêne pas d'être là, et au contraire, il semble faire face à l'accusation avec une facilité assez déconcertante.
Sachant que dans mes procès, on peut être avocat, on peut être homme politique et se retrouver accusé, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que écoutez, oui, c'est vrai, absolument, je trouve que cette photo, moi je la trouve très impressionnante. Vous avez d'abord, il y a à la fois de l'intelligence et de la folie, je trouve, qui transpire dans ce visage, et une très 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 grande intensité avec ce regard quand même extrêmement prenant. Voilà, alors ce qu'il y a, c'est que Petiot était à la fois un grand fou quand même, je crois qu'on peut le dire, et puis aussi quelqu'un qui était parvenu aux frontières de la respectabilité, enfin même au-delà des frontières de la respectabilité, et qui était quasiment un notable. Il avait été maire dans sa province, enfin je veux dire, il était médecin, il avait pignon sur rue, mais c'est vrai que les circonstances de l'occupation ont favorisé cette activité un peu tout à fait occulte et
un personnage
et
ambivalent. La une du Figaro littéraire avait repris le personnage, et on le voit tendre le doigt comme s'il accusait les gens, ce qui est absolument hallucinant. Passons au procès des sœurs Papin. Alors d'abord, à quelle époque nous sommes?
Dans les années 30.
Nous sommes dans les années 30.
En 33, exactement.
En 1933. Et c'est un crime qui est assez, fascinant, parce que qui a un destin politique. C'est-à-dire que ça devient une question politique bien après le procès.
Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est à la fois, d'abord, un procès qui, effectivement, montre un certain air du temps. Il y a bien sûr, je veux dire, les juges qui se prononcent sont vraiment le reflet de l'opinion publique, enfin de la vox populi. C'est en même temps un procès, comme vous le dites, qui a une résonance politique, puisque, donc rappelons quand même qui sont les sœurs Papin. Ce sont celles qu'on a appelées les bonnes. Enfin, ce sont les bonnes de Genet, les sœurs Papin. Ce sont deux domestiques, mais qui sont vraiment, les héritières des bonnes du 19e siècle. Et qui massacrent, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui massacrent leur patronne dans des conditions absolument épouvantables.
Que vous décrivez par le menu.
Oui, parce que quand même, on ne va pas se priver de ce plaisir. Mais enfin, non, c'est assez monstrueux. Donc c'est vrai qu'il y a des enjeux politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, enfin, l'humanité prend à bras le corps ce sujet, enfin, s'empare de ce sujet pour effectivement, enfin, ce crime, pour en faire un sujet politique, en interrogeant le statut des bonnes. Et c'est également une question psychanalytique et psychiatrique.
Puisque après, elles vont devenir des sortes d'héroïnes de classe.
Oui, d'héroïnes de classe. Et puis, si vous voulez, ce sont des héroïnes aussi pour les surréalistes. Ce sont des personnages qui prêtent à rêverie, si vous voulez. Les surréalistes en font des héroïnes, alors que vraisemblablement, c'était aussi, en tout cas pour l'aînée d'entre elles, Christine Papin, une personne qui était assez dérangée, enfin qui clairement est morte à l'asile, enfin qui 4 ans après le procès.
Le traitement de la justice sera différent pour l'une et l'autre sœur.
Oui, parce que très clairement, dans les deux sœurs, il y avait une lideuse, si on peut l'appeler ainsi, qui était donc l'aînée, qui s'appelait Christine, sa sœur Léa, étant un peu aimantée par sa sœur aînée. Il y a un phénomène justement qui a été, qui a fait l'objet d'études psychiatriques et psychanalytiques très, très riches.
Et tout cela pour un fer à repasser qui a fait sauter les plombs.
Absolument, c'est ça. Oui, c'est le point de départ, c'est l'étincelle qui a déclenché ce torrent de violence, effectivement, un fer détraqué.
Alors, je tiens quand même à en parler parce que c'est assez révélateur de l'époque, malgré tout. Violette Nozière, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est cette fille qui tente de tuer ses parents. Et nous sommes en 1934, c'est une période d'incertitude politique. La République est remise en cause. Bref, tout part à volo, si je puis dire, et on pense aussi à notre époque aujourd'hui, où on parle beaucoup des valeurs, que ce soit des valeurs remises en cause de manière générale. Et Violette Nozière apparaît comme la fille qui bouleverse ces valeurs, alors que il y a deux Violette Nozière. Il y a celle qui tente de tuer ses parents, et puis celle après qui sera graciée.
Réhabilitée, le plus fort. C'est-à-dire qu'elle est.
C'est la première fois que ça arrive, vous l'écrivez, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la justice. C'est-à-dire qu'on gracie une personne, on réhabilite une personne, pardon, après l'avoir condamnée.
Voilà, absolument, à mort. Après l'avoir condamné à mort. Oui, la réhabilitation d'une personne condamnée à mort n'était jamais arrivée. Violette Nozière est ce personnage qui, elle aussi, a déchaîné des fantasmes, si vous voulez. Et les sœurs Papin et Violette Nozière sont des machines à fantasmes.
Anti-bourgeois, si je puis dire.
Oui, si l'on veut. Alors, c'est vrai que les sœurs Papin sont plus tournées vers le 19e siècle et Violette Nozière vers le 20e, d'une certaine façon. Elles sont très Nozière est très parisienne. Enfin, c'est une image parisienne. Elle aussi, une héroïne des surréalistes qui ont justement beaucoup divagué sur ce parricide. Enfin, quand tuer ses parents, c'est un geste très surréaliste. Enfin, je veux dire, cette espèce de liberté comme ça, prise avec les liens du sang, qui est l'objet de scandale. Elle aussi, évidemment, est condamnée, je dirais, de manière massive par la Vox Populi. Votre question, c'était.
C'est tout simplement le reflet d'une époque, où les valeurs sont remises en cause, et on voit cette jeune femme qui veut tuer ses parents. Et où va-t-on finalement?
Oui, absolument. Exactement. C'était la une de tous les journaux. Mais effectivement, vous aviez raison. Votre question, c'est ce retournement, parce que donc il y a cette espèce d'amoralité. Elle collectionne les amants, elle gagne de l'argent dans les lits, en se prostituant, parce que c'est ce que ça s'appelle. Et elle finit, elle était une détenue exemplaire. Et c'est ainsi qu'elle sera réhabilitée. Donc
elle est réhabilitée. Ce qu'il y a de l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle vit, après sa réhabilitation, ce qu'elle critiquait avant le meurtre, à savoir la société bourgeoise.
Oui, si l'on veut. Enfin, elle est mère de famille, c'est ça que vous voulez
exactement,
dire.
Exactement, mais elle est rangée. Vous décrivez une femme rangée, finalement.
Plus que rangée. Je pense que c'est une femme assez apaisée, je dirais. Oui. Ouais. Mais parce qu'il y a quand même une histoire d'inceste dans Violette Nozière. Ouais. C'est pas anodin, voulez. Quand même, ce déchaînement de violence. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, l'inceste n'avait certainement pas le même poids qu'il peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, la pédophilie, l'inceste, ce sont des choses auxquelles nous sommes extrêmement sensibilisés. Bon, peut-être parfois trop, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque de Violette Nozière, il n'y avait pas du tout la même écoute. Et la presse n'était absolument pas réceptive à ces circonstances ou à cette... cet élément.
Alors passons au procès politique, car il jalonne votre ouvrage. Alors, est-ce que le choix a été difficile? Parce que vous posiez la question d'ailleurs dans votre introduction générale. Par exemple, pourquoi Laval plutôt que Pétain?
Alors, écoutez, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je trouve que le procès Laval est beaucoup plus très intéressant par son désordre même, justement, par ce qui fait qu'il est un peu immontrable. Enfin, il a quelque chose de scandaleux.
Il est bâclé.
il est bâclé puisque les droits de la défense ont été bafoués au cours même de l'instruction qui a été là aussi bâclée, qui a été conduite tambour battant de manière très très accélérée. Il est bâclé quand le procès s'ouvre, Laval est seul pour se défendre, et c'est aussi une chose que j'ai, sur laquelle j'ai voulu insister dans ce livre, c'est essayer de laisser la parole de l'accusé. C'est-à-dire que dans mes extraits, j'ai essayé de privilégier la parole de l'accusé, dès lors que c'était possible. J'ai trouvé que c'était intéressant de savoir comment un homme se défend face à ses juges quand parfois sa peau est en jeu. Mmh. Donc là, effectivement, le procès s'ouvre, Laval est seul face à ses juges, ses avocats ne sont pas dans l'enceinte, et considérant que les droits de la justice, enfin les droits de la défense, n'ont pas été suffisamment respectés et se refusant d'être présents. Puis donc Laval tente de se défendre comme il peut, comme il l'a fait quand il était parlementaire.
C'est un lion.
Il est là dans un mélange de complètement indémêlable de sincérité et de mauvaise foi, qui est vraiment sidérant à lire, je trouve. Donc il se défend comme il peut, et à un moment, si vous voulez, ses juges quand même le brident, l'empêche de parler, l'empêche, si vous voulez, d'assurer la défense qu'il souhaiterait adopter. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il se retire dans le silence, ses avocats reviennent, enfin il y a tout un balai.
Parce qu'il y a des avocats après commis d'office.
En réalité ce sont ses propres avocats qui étaient là dès l'origine, qui viennent assurer sa défense, mais c'est vrai que ce procès est un procès de grand désordre où les jurés l'injurient, enfin c'est un procès où la dignité de la justice est largement mise à mal.
Mais vous montrez bien que finalement ça ne profite pas aux victimes, parce que la justice n'est pas vraiment rendue sur les intentions, même sur les chefs d'accusation. Le deuxième chef d'accusation sur la collaboration, il n'y a pas vraiment de réponse, on ne va pas dans le fond.
Non.
Et comme on ne va pas dans le fond, eh bien on reste sans réponse, c'est ce qu'il y a de plus grave.
Sans doute, bien sûr, mais ça c'est bien sûr. Mais Laval lui-même n'était pas prêt à répondre sur la collaboration. Lui, Laval, ce dont il voulait parler, ce qui l'intéressait, comme
c'était
d'ailleurs Flandin,
politique.
C'était sa politique et sa politique avant-guerre, parce que toute sa défense, c'était de dire, si on avait suivi ma politique, si j'avais eu la liberté d'exercer toute ma politique, nous n'en serions pas arrivés là, la guerre n'aurait pas eu lieu, et puis toute cette thèse qui a consisté à dire que Vichy était un bouclier face aux Allemands. Thèse qui s'est avérée ne pas tenir. Enfin. Donc, si vous voulez, il faut aussi faire la part de l'extraordinaire mauvaise foi de Laval. Mais je pense qu'il était assez sincère dans sa mauvaise foi, ce qui est un peu paradoxal. Mais le procès révèle tout cela. Ouais.
Alors, oui, parce que Vichy, c'est aussi un panier de crabe. Hein,
Oui, ce qui vous permettait, ce que je voulais dire aussi au sujet du procès de Laval, c'est que tout ce désordre aussi, on peut s'en offusquer, on peut en être choqué, mais franchement, est-ce qu'en 1945, au moment où ce procès s'ouvre, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'il y ait la sérénité suffisante, alors qu'on est dans une époque de tension, mais immense, je veux dire, il faut essayer de se replacer dans le contexte de la collaboration, de la libération. Est-ce que vraiment on pouvait s'attendre à ce qu'un procès se déroule dans des conditions sereines ? Franchement.
Oui, parce que en fait, ce qui m'a surpris aussi, je ne savais pas, c'est que le procès a lieu en octobre, commence en début octobre 1945, et donc on est en pleine épuration.
Oui, c'est ça, c'est un procès de l'épuration, ça, c'est certain.
On est en pleine épuration, et donc ce sont les passions qui triomphent un peu sur sentiment de justice, même si, encore une fois, il ne s'agit bien évidemment pas d'exonérer Laval, loin de là. Le procès se termine, votre retranscription se termine avec un véritable pugilat. Le premier président qui pose la question précisément, comment vous avez pu vous maintenir auprès du maréchal Pétain dans l'atmosphère d'hostilité qui régnait à Vichy, parce qu'il régnait une atmosphère d'hostilité, parce que c'était un panier de crabes.
Évidemment.
Et il ne répond pas à cette question, et là ça part un peu dans tous les sens de, on se traite de salaud,
oui,
on appelle aux 12 balles.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà.
Non, je trouve ça intéressant, si vous voulez, de se rendre compte des circonstances dans lesquelles un tel procès...
Est-ce que vous savez qui ont été les jurés ?
Il y avait des communistes parmi eux que Laval a refusé d'écarter. Enfin, vous savez, on a la possibilité de demander à ce que des jurés
soient remplacés. Oui.
Voilà, oui, pour des questions justement de partialité, de défaut d'impartialité. Donc Laval, délibérément, s'est refusé à le mot m'échappe, enfin à récuser, voilà.
Oui, récuser les jurés.
À récuser ses jurés.
En fait, avec Laval, on a tout de même un sentiment d'accompli et une forme d'incertitude et même une amertume de voir que les choses n'ont pas pu se dérouler dans la sérénité dans laquelle elles auraient dû se dérouler.
Sans doute, je pense
c'est
pas
ce que
la...
ressors de la...
Oui, oui.
La... C'est
écoutez,
ce que j'ai ressenti à votre lecture.
C'est-à-dire qu'on aurait rêvé comprendre, on aurait rêvé avoir une explication, mais je pense que c'est un rêve. C'est-à-dire que je pense que c'était impossible, quand même les conditions auraient été plus favorables, quand même la sérénité aurait été plus grande, je ne pense pas que la défense de Laval aurait été... aurait éclairé l'histoire. Ouais. Je veux dire, elle aurait pu éclairer sur certains points, mais elle serait restée la défense d'un homme aux abois, malgré tout.
Mais c'est tout l'intérêt de votre ouvrage, c'est l'historien est là pour comprendre. Et là, on reste, tout comme l'historien, je pense, de cette période, on reste sur une forme d'incertitude. Ouais. Et cette incertitude, pour qu'elle ait, j'allais dire, une explication, ou qu'elle trouve une clé d'explication, à mon avis, il faudra des décennies.
Je pense que c'est une quête permanente. Je pense qu'il n'y a pas de terme.
Alors, je vais revenir un peu en arrière, parce qu'il y a un procès qui est assez, assez étonnant, parce qu'il mêle le politique, mais... il a un côté aussi vaudevillesque, c'est le procès de Madame Caillot. Alors, tout d'abord, Stéphanie de Saint-Marc, qui est Madame Caillot ?
Alors, Madame Caillot est la femme de Joseph Caillot. Joseph Caillot, ministre des Finances, qui était un radical, d'abord, à la tête du Parti radical, et qui, parmi d'autres, se faisait en particulier était le champion de l'impôt sur le revenu, ce qui était alors très
novateur. Les Français s'en souviennent encore.
Voilà, ce qui était très vrai. Et ce qu'il faisait taxer de plutocrate démagogue, parce que c'était un homme très fortuné, et on considérait que cette défense de l'impôt sur le revenu était un peu contraire à ce qu'il était. Bref, Henriette Caillot, enfin Joseph Caillot, fait l'objet dans la presse, encore une fois, ce qui met bien en scène la violence des antagonismes politiques de ces périodes qui sont décrites dans ce livre, c'est que Joseph Caillot fait l'objet d'une campagne de presse extrêmement virulente de la part du Figaro. Figaro, dont Gaston Calmette est le président. Donc, d'une grande violence, Léon Daudet lui-même ayant dit que cette campagne avait été trop longue, ce qui est assez drôle quand on se souvient qui est Léon Daudet, qui est donc à l'Action française, qui lui-même s'y connaissait en matière de campagne de presse violente et virulente. Toujours est-il que cette campagne a été extrêmement violente et notamment a pris un tour personnel, donc il y avait évidemment de multiples arguments, mais parmi ces arguments sont apparus au fur et à mesure de la campagne des éléments personnels et notamment la publication d'une lettre que Joseph Caillot avait adressée à sa première femme alors qu'elle était encore sa maîtresse. Bon, sachant que la vie sentimentale de Joseph Caillot a été un peu agitée. C'est vrai que c'est découverte, Madame Caillot, deuxième Madame Caillot, a un jour, en ouvrant le Figaro au petit déjeuner, découvert une lettre que son mari avait envoyée à sa précédente épouse alors qu'elle n'était que sa maîtresse. Madame Caillot, Henriette Caillot, prend peur en se disant « mais toute notre vie intime va être dévoilée », car elle savait que des lettres qu'elle avait échangées avec son mari alors qu'il n'était pas encore marié avaient été divulguées justement par la précédente Madame Caillot, et qu'elle se dit que cette correspondance risquait de sortir dans le Figaro. Donc Madame Caillot perd la tête et va tout purement et simplement son petit revolver de nacre caché dans son manchon tirer quelques balles sur Gaston Calmette dans les bureaux du Figaro.
procès donc avant tout politique, mais ce qui a d'étonnant, c'est que cette dame sera graciée.
Sera acquittée.
Sera acquittée. Et d'ailleurs, il y a non pas un procès en miroir, mais en écho plutôt. C'est celui de Germaine Berton, ouais. Qui, elle, veut tuer le personnage dont vous parliez tout à l'heure, qui est Léon Daudet. Donc c'est une jeune, on peut dire que c'est une jeune anarchiste.
Oui.
Et cette jeune anarchiste manque son coup, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à rencontrer Léon Daudet. En revanche, elle tue un autre membre de l'Action française, qui est moins influent que Daudet, moins influent que Maurras ou Jacques Bainville, c'est Plateau.
Marius Plateau, oui. Absolument. Donc effectivement, et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls, les femmes tirées sur les journalistes. Donc encore une fois, c'était aussi une manière de montrer la violence. D'abord, je trouvais que c'était intéressant de mettre des femmes criminelles, enfin, qu'il y a quelques femmes criminelles, c'était intéressant. Et puis de montrer quand même qu'effectivement, il y a cette violence des mœurs politiques, enfin, je veux dire, ou des femmes, puisque là, l'une et l'autre, enfin, Madame Caillot, c'est un peu ambigu, c'est à la fois je dirais, enfin, affectif, si l'on veut, ou émotionnel et politique. Et Germaine Berton, quant à elle, c'est un crime vraiment purement politique. Elle voulait supprimer Léon Daudet, considérant par conviction politique. Voilà. Ce qu'elle appelait l'aventurier royaliste Léon Daudet, ces formules quand même sont toujours très amusantes. Et elle, effectivement, n'arrivant pas à trouver Léon Daudet, elle tire sur Marius Plateau par conviction politique.
Et elle sera acquittée, elle aussi.
Elle sera, elle aussi, acquittée, ce qui montre d'ailleurs que ça n'est pas seulement une justice de classe, puisque Germaine Berton n'était certainement pas... pas une figure bourgeoise, enfin, je ne sais pas, une...
Alors, plus que dans le procès de Caillot, le procès de Germaine Berton, c'est un procès où vraiment la politique s'invite dans le prétoire, puisque ce sont deux conceptions de la société, on va même dire de la civilisation, qui s'affrontent devant le juge.
Oui, absolument. Et puis, notamment, donc, l'avocat de Germaine Berton est une grande figure du barreau, qui le deviendra plus encore par la suite, qui est Henri Torres, donc avocat de gauche, communiste, et qui, si vous voulez, invite justement, comme ça se trouve dans certains de ses procès, invite la cause de l'Action française dans le procès. Donc vous avez Henri Torres qui est face à Marie de Roux, qui était l'avocat de l'Action française, le marquis Marie de Roux, et qui, si vous voulez, l'un et l'autre ferraille autant pour défendre leurs clients, je dirais, que pour défendre l'un la cause de l'Action française comme mouvement, et l'autre, l'anarchisme, mais pour, au contraire, mettre en accusation les méthodes de l'Action française comme mouvement et comme journal. Méthode agressive.
Ouais. Alors nous allons faire un bond dans le temps et on va sortir de cette époque pour, j'allais dire, apporter un éclairage sur... Nous sommes après-guerre... c'est le procès de Victor Kravchenko, enfin ce n'est pas son procès, mais le procès des lettres françaises pour diffamation. Mmh. Et on se dit qu'on a changé d'époque, c'est-à-dire qu'on peut imaginer Kravchenko, donc, qui est un ancien communiste, qui dénonce le stalinisme, qui est littéralement assassiné, mais par des mots, par la plume, par les lettres françaises, qui est donc le journal communiste. Et on peut imaginer qu'avant la guerre, ou que ça soit la Deuxième Guerre ou de la Première Guerre, eh bien, Kravchenko pourrait prendre soit son avion, soit son bateau pour aller tuer le directeur des lettres françaises. Mais non, là, ça se passe devant les tribunaux. Il y a l'évolution d'une époque.
Peut-être, vous avez raison de le souligner, c'est intéressant, c'est vrai qu'il aurait pu, il aurait été Madame Caillot, peut-être qu'il aurait pris son revolver, là il a pris un avocat, c'est peut-être plus simple, mais ça n'est pas moins sans écho, enfin, l'écho du procès Kravchenko a été considérable, et je trouve que c'est intéressant, pour des gens de ma génération, comme vous, je pense qu'on oublie le poids du Parti communiste, enfin, je trouve que c'est un procès qui vraiment met en scène de manière tout à fait spectaculaire ce qu'a pu être le Parti communiste, et en particulier le Parti communiste français. Et on voit, donc, vous avez raison, voilà, Viktor Kravchenko, dissident russe, dissident soviétique, qui voilà, a écrit un livre dénonçant le système soviétique. Et ce livre et cet auteur sont, font l'objet d'attaques extrêmes, là aussi assez brutales, de la part des lettres françaises. Donc, action en diffamation de Kravchenko. Et ce procès est l'occasion et le prétexte presque, là aussi, pour une, je dirais, pour la classe politique, la classe intellectuelle française, de venir défendre le communisme, de venir défendre Moscou et d'avoir une sorte quand même de langue de bois. Enfin, c'est quand même assez saisissant aujourd'hui quand on voit ces hautes personnalités du monde intellectuel français tenir ce langage qui est quand même un langage extrêmement, je dirais, aveuglé. Une espèce de langage unique, enfin de langage extrêmement stéréotypé.
Il y a toujours, vous montrez d'ailleurs dans votre introduction, d'abord Kravchenko, c'est un personnage qui est parti du système communiste, ouais, et qui l'a dénoncé d'abord aux États-Unis, c'est bien cela ?
C'est ça, c'est un dissident qui s'est retrouvé, je dirais, dans l'antenne soviétique de Washington. Enfin,
et donc, il a écrit.
Fonctionnaire soviétique à Washington.
Oui. Voilà, il a écrit un livre qui s'appelle J'ai choisi la liberté, qui est un gros ouvrage. Et en fait, cet ouvrage va être dénoncé dès 1947 par les communistes et par les lettres françaises. Et ils utilisent le même procédé, c'est-à-dire que plutôt que s'attaquer au fond, ils dévalorisent d'abord la personne.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est une vieille arme, mais c'est vrai que là, ils ne s'en privent pas. Alors, ce qui est attaqué, bien sûr, c'est la personnalité de Kravchenko. Voilà, parce qu'effectivement, ce livre, en réalité, très vraisemblablement, n'a pas été écrit par Kravchenko lui-même. Il a été très certainement aidé, parce que c'est un livre un peu qui est aussi un peu romancé, enfin, où interviennent des personnages féminins. Enfin, vous voyez, c'est un livre un peu à l'américaine, comme ouais, disent les lettres françaises elles-mêmes. C'est bien sûr, mais peu importe. Je veux dire, la dénonciation porte sur des faits exacts, qu'il y ait eu des éléments un peu romancés. C'est sur le, je dirais, c'est le détail. Enfin, c'est la sauce sur le gâteau. Mais le fond reste exact. Donc, les lettres françaises prennent prétexte de cette, je dirais, de cette façon un peu à l'américaine, comme ils disent, pour tout critiquer, pour remettre en cause l'ensemble du propos, qui était une dénonciation du régime soviétique qui, elle, était parfaitement fondée.
Or, nous sommes à une époque, dans un contexte bien particulier, qui est que Staline, c'est celui qui a participé à la chute du nazisme.
C'est ça. Oui, et c'est ça. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, vous voyez, dans ce travail, c'est de voir comment évolue, de la Première Guerre mondiale à la guerre d'Algérie, par exemple, la perception du Parti communiste au regard, enfin, dans l'opinion, c'est-à-dire être comme, enfin, vous voyez, le Parti communiste avant-guerre, la perception du Parti communiste avant-guerre n'est vraiment absolument pas la même que la perception du Parti communiste après-guerre, avec toute l'œuvre de résistance, je dirais, intérieure, puisque tout le monde sait qu'effectivement les communistes se sont illustrés dans la résistance, et également, bien sûr, le rôle de l'Union soviétique dans leur lutte contre le nazisme.
Parce qu'on se souvient très bien de Solzhenitsyn, mais Kravchenko, on l'a oublié.
Or,
Kravchenko, ouais, c'est un Solzhenitsyn avant la lettre.
Oui, enfin, sauf moi,
sauf
la valeur. Oui, voilà.
Enfin,
ce qui n'est pas un détail. Non, mais vous voyez, parce que forcément, c'est lié.
Oui.
Genre, la force avec laquelle on porte une parole,
oui,
a forcément une incidence. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a énormément de mauvaise foi et de langue de bois dans la partie adverse.
Enfin. Il va avoir gain de cause ?
Oui, mais dans des circonstances peu enviables, c'est-à-dire qu'il commence par avoir un franc symbolique de dommages d'intérêt, et puis il finira par se suicider, Kravchenko, donc cette histoire est assez tragique, enfin.
Nous arrivons, Sérine de Saint-Marc, peu à peu au terme de cette émission. Je voudrais revenir sur cette idée, c'est que il y a une fluctuation des valeurs qui ressort de votre ouvrage, ce qui est vrai un jour, par exemple le pacifisme ne l'est pas forcément le lendemain.
Oui, c'est assez saisissant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé en parcourant, mais c'est vrai que c'est assez saisissant.
Peur, je vais vous dire, j'en ai ressenti une peur par rapport à la justice, finalement.
Ah oui, ça, je comprends. c'est vrai que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces propos d'André Gide qui introduisent le livre. C'est-à-dire ce sentiment qu'en effet, la justice est quand même terriblement humaine et qu'elle tend vers l'impartialité, elle tend vers un idéal, mais que ça n'est qu'une tension et que malheureusement les entraves sont nombreuses.
Ouais. Le Barrès disait l'intelligence, quelle petite chose à la surface de nous-mêmes. En vous lisant, je me disais que cette phrase, c'était la justice, quelle petite chose à la surface de nos sociétés, qu'il est vraiment difficile, alors dans des périodes de tension, de passion politique.
L'irrationnel est affleure, quoi, ouais, affleure, ouais, tout, ouais, le temps. Et votre phrase de Barrès me paraît particulièrement pertinente ici. Ouais.
Est-ce que, parce que le dernier procès que vous retenez, c'est donc celui des barricades. Nous sommes donc dans la période algérienne. Est-ce que c'est le dernier grand moment de tension qu'il y a eu en France, d'exacerbation des passions?
Le dernier grand moment, sans doute pas. C'est vrai que j'ai identifié la guerre d'Algérie comme un moment particulièrement, je dirais, de tensions particulièrement violentes et de, si vous voulez, à la fois sur un territoire avec lequel la France entretenait des liens quand même extrêmement intimes, extrêmement forts. Il y a eu quand même un arrachement extrêmement violent. La guerre d'Algérie, je pense, a été l'occasion de tensions très, 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 très fortes. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le procès des barricades, mais aussi dans le procès Janson, qui sont procès du réseau Janson, puisque j'ai choisi ces deux procès pour la guerre d'Algérie, c'est de mettre face à face les protagonistes d'une même génération, mais dont les uns sont des sympathisants du FLN et les autres des sympathisants de l'Algérie française. Ce sont des hommes qui appartiennent à une même génération, qui les uns et les autres ont des idéaux et qui sont totalement opposés. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était intéressant de les mettre face à face à travers ces deux procès.
Est-ce que, c'est une question difficile, Stéphanie de Saint-Marc, mais est-ce que l'histoire est écrite par les vainqueurs?
Je pense que c'est difficile. Vraiment, je ne sais pas comment répondre à votre question. D'abord, je pense qu'on est vainqueur que de manière très transitoire. L'histoire est toujours en mouvement, je pense que c'est, me semble-t-il. Et les victoires me semblent parfois bien, bien fragiles. Voilà ce que je pourrais... En tout cas, tout ce qui est univoque me paraît suspect.
Eh bien, merci beaucoup Stéphanie de Saint-Marc. Les grands procès du XXe siècle, vous allez littéralement le dévorer cet ouvrage entre politique, société et évidemment justice. Donc une édition établie et présentée par Stéphanie de Saint-Marc dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Christophe Vicasse.
Et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos mémoires.